Et je vais donc, sans plus tarder, inviter Monsieur Philippe Burtin, à qui on a confié, pas une mince affaire, hein, c'est de nous traiter finalement la possibilité d'éducation dans des services d'urgence, dans un contexte de crise peut-être. Y a-t-il de la place à une éducation thérapeutique en situation d'urgence? Donc, partage d'une réflexion et d'une pratique. Merci, Monsieur Burtin.
Bonjour à tous. Je remercie grandement les organisateurs pour leur invitation. C'est un honneur. Et puis, c'était aussi pour moi l'occasion de remettre en question et de remettre en cause ce que je fais, qui n'est pas effectivement très reconnu, très organisé. Donc, j'espère avoir l'occasion d'en discuter après. Je suis kiné, je travaille dans un hôpital dans le sud-ouest de la France, surtout comme kiné-respi, et aussi comme enseignant en kiné-respi, en éducation thérapeutique et en réentraînement à l'effort. Alors, on l'avait convenu d'un titre avec les organisateurs il y a quelques mois de ça, et puis après ça, il a fallu se mettre au travail, et puis... qu'est-ce que je mets dans cette communication? Comment je m'y prends? On a mis donc du contenu, et évidemment, j'ai aussi changé le titre. Voilà, c'est le titre aujourd'hui, demain, il y aura peut-être autre chose. Et la première question que je me suis posée, c'est en fait, à quel patient on s'adresse? On a des asthmatiques en général, et cette population n'est-elle pas particulière? Et effectivement, à mon avis, il y a quelques traits communs. La première question, le premier point, c'est qu'on est dans un contexte de gravité extrême, avec un risque vital, de passage en réanimation, ça arrive, des patients qui décèdent, moins ces dernières années, mais ça reste encore malheureusement trop fréquent. Et, de fait, ils ont un vécu émotionnel tout à fait spécifique. Ce sont des patients qui ont été arrachés à leur quotidien par les services de secours, qui ont attendu les services de secours, qui les ont enfin vus arriver, qui ont été arrachés à leur quotidien, qui sont arrivés vaille que vaille, tant bien que mal, pimpon, pimpon, aux urgences. Là encore, il y a un délai d'attente, une prise en charge, que va-t-il se passer? Des inconnus, une multitude d'inconnus, on ne sait pas qui fait quoi, que va-t-il se passer? Sans compter l'aspect somatique de la gêne respiratoire, qui est peut-être parfois extrêmement mal supportée. Ensuite, pour tous ces patients, il y a des questions sur ce qu'ils faisaient jusqu'à présent et qui sont-ils? Les questions les plus classiques sont évidemment qu'est-ce qu'ils font avec leur traitement? Qui sont-ils d'une manière générale? Dans quel contexte vivent-ils? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi des spécificités dans leur capacité, dans leur fonctionnement? C'est peut-être pas les mêmes asthmatiques que ceux qui ne vont pas aux urgences, on peut s'en douter. Ce à quoi on peut aussi penser, c'est est-ce qu'eux, ils n'ont pas aussi des demandes qui leur sont propres? Alors, on va faire un détour par la littérature pour voir un peu ce qui se dit ailleurs et ce qu'on a pu repérer. Dans cette étude, étaient enrôlés des patients dans un service d'asthmatique difficile à traiter. C'est ainsi le titre de ce service. Et ils ont été séparés, donc ces patients qui étaient des asthmatiques connus, largement repérés, ils étaient séparés en deux groupes. Ceux qui renouvelaient leurs ordonnances pendant plus de 6 mois avec un taux de renouvellement d'au moins 50%, parce qu'on suivait le taux de renouvellement des ordonnances dans ce travail, et ceux qui n'allaient même pas chercher la moitié des médicaments qui étaient prescrits pendant ces 6 mois. On pouvait donc grosso modo dire ceux qui étaient relativement observants, comme on dit maintenant, ceux qui sont observants ou pas observants, de ceux qui ne devaient certainement pas mettre grand-chose dans leur bronche. Et ce qui était tout à fait spécifique, c'est que effectivement, même si l'asthme des patients, si l'asthme de ces patients-là était des patients qui n'étaient pas très observants n'étaient pas cliniquement beaucoup plus sévères. En revanche, ils avaient beaucoup plus de chances d'être admis aux urgences. Pas assez d'observance, on arrive un peu plus fréquemment aux urgences. Ce n'est pas très étonnant, mais c'est un fait. Deuxième point, et grand classique chez les asthmatiques, comment se servent-ils de leurs différents types d'inhalateurs? Alors, les études abondent, il y en a 20, 30, 40 qui sont sortis ces dernières années, avec fréquemment des taux de bons démonstrateurs quand le patient est au calme dans un bureau, dans un service de consultation. On a 20 à 30%, parfois 40% de bons démonstrateurs des différents inhalateurs. Et il y a un article qui s'est intéressé spécifiquement aux patients qui étaient aux urgences et qui, une fois passé l'épisode aigu, ont regardé comment ils s'y prenaient. Cette fois-ci, les investigateurs avaient utilisé avaient scindé la manipulation de l'aérosol doseur en 7 étapes, ce qui est assez classique, et ont trouvé un peu plus de 20% de bons démonstrateurs pour les 7 étapes, et un peu moins de 20% qui n'avaient qu'une seule erreur. On peut dire que, grosso modo, donc tous les autres patients n'avaient rien dans leur bronche. Ensuite, on s'est intéressé aussi au niveau socio-économique des patients. Et l'année moyenne les plus simples, c'était de s'intéresser à leur niveau d'études. Alors ici, on a différencié les patients qui avaient un niveau inférieur au bac et ceux qui avaient un niveau supérieur au bac. Et sachant que c'est une étude nord-américaine, la première année commence à 6 ans en général, se termine à 18 ans. Pour vous dire que ça correspond grosso modo à notre niveau d'études secondaires, plus, en plus ou en moins. Et ce qui était tout à fait spécifique là encore, c'était qu'il était bien démontré que ceux qui avaient un niveau d'études inférieur à leur 12e année, ma foi, ils avaient infiniment plus de chances de se retrouver un jour ou l'autre aux urgences. Alors, je vais m'arrêter là pour la littérature parce que c'est un peu à double tranchant. J'ai dit, bon, je regarde un peu ce qui se passe, comment sont les patients, mais je ne voulais pas non plus qu'on reparte avec l'idée tous les patients des urgences sont comme ça. Ce n'est évidemment pas le cas. Chaque patient est évidemment unique et la seule idée qu'on doit retenir, c'est qu'il y a évidemment quelques lignes directrices, quelques points communs, quelques tiroirs à ouvrir quand on va faire connaissance avec ces personnes, lorsqu'on va commencer à discuter avec elles, se douter un petit peu qu'il y a des choses qui vont peut-être pas très très bien aller, mais c'est tout, et là encore, il vaut mieux avoir les idées larges plutôt que de foncer uniquement, classiquement, sur la technique d'inhalation. Alors, bien évidemment, on a tous des attentes, que ce soit les patients ou les soignants. Et je vais continuer un peu avec les patients, parce que j'ai laissé entendre que leur niveau d'études n'était peut-être pas très très élevé. Et, si j'ai donc un dernier point sur la littérature, cette fois-ci, les investigateurs sont intéressés à des patients après leur passage aux urgences. Et ils les ont suivis pendant quelques jours et puis ensuite les ont revus à quelques mois pour avoir une idée de leur vécu, de leurs compétences. Enfin, c'est une étude assez large, je vais juste en extraire quelques éléments pour savoir un peu ce qu'ils allaient devenir dans les mois et les années qui viennent, sachant que c'est des patients qui sont déjà des asthmatiques connus et qu'ils ont reçu au moins de l'information. Bon, on sait que ce n'est pas très efficace, mais ce sont des patients qui quand même ont déjà, comme toujours, certaines compétences et certains d'entre eux ont aussi déjà suivi des programmes éducatifs. Et c'est là que je crois que c'est vraiment intéressant. Quand bien même on a affaire à des patients qui viennent aux urgences, qui ont leurs spécificités, l'immense majorité d'entre eux, pour ne pas dire tous, sont demandeurs de savoir. Et dans la pratique quotidienne, lorsqu'à un moment, je leur demande « Mais qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous voulez en savoir plus ?» Tous répondent « Oui, 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 ça m'intéresse, j'ai envie d'apprendre. » À ma gauche, les patients, à ma droite, les soignants. Je suis peut-être un peu caricatural, mais je crois que certains d'entre nous, on l'a déjà vu, voire vécu. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent trouver... Ah, j'ai déjà parlé des émotions, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est clair que j'ai un vécu quand même qui n'est pas celui de la personne stabilisée. Hein. Ils viennent chercher chez nous de la compétence technique, ça c'est clair, hein, ils veulent qu'on s'occupe d'eux de manière performante, c'est normal, évidemment. Ils viennent aussi trouver des gens qui soient gentils et accueillants, qui sachent quelque part les écouter et prendre soin d'eux. C'est ce qu'ils veulent quand nous, soignants, on s'occupe d'eux. Ils veulent aller mieux. C'est normal, mais là encore, certains, c'est plus ou moins verbalisé. Le plus tôt possible, ils veulent retourner à leur quotidien. Hein, on sait tous très bien que dès qu'un patient va mieux, il se met à râler, il veut sortir. Hein, aux urgences, c'est vraiment le plus fréquent. Et puis, je veux sortir, je veux rentrer chez moi, je veux retourner faire tout ce que j'ai à faire. Mais à un moment, il n'y a pas de, ou pas assez souvent, peut-être pas assez, de est-ce que je risque pas de revenir? Est-ce que c'est vraiment grave? Pourquoi ça m'est arrivé? Vous savez, toutes ces questions qu'on va parfois aller chercher lorsqu'on s'entretient avec nos patients. Nous, les soignants, surtout dans les services d'aigu, voire d'urgence, ben, ce qu'on veut, c'est que le patient aille mieux. Donc, ça tombe bien, on doit pouvoir y arriver. Et puis, on veut qu'il ne reste pas trop longtemps, le moins longtemps possible. Hein, je ne parle même pas des décideurs qui nous donnent de l'argent. Et, on se soucie aussi un peu du devenir. On va quand même l'orienter de la manière la plus adaptée possible. C'est donc pas toujours en concordance. Alors ensuite, on a des conditions pour mettre en œuvre une éducation, même quand on n'est pas toujours dans la facilité, dans l'organisation optimale. Nous, les soignants, surtout dans les services d'urgence, on sait qu'on est là pour ouvrir le capot, soigner ce qui ne va pas bien, refermer, et puis refiler le bébé, refiler le patient à quelqu'un d'autre, à la maison, dans un autre service. En plus, quand le patient ne va pas bien, c'est clair que c'est quand même un des hauts lieux de cette médecine, relation un peu verticale, soignant-soigné, où comme il n'est pas vraiment en mesure de s'exprimer, peut-être qu'on le conçoit ainsi, et qu'il ne va pas bien, donc on va quand même faire pour lui beaucoup, beaucoup de choses. On est très directif, hein, et il n'est pas vraiment en mesure, peut-être pas assez, d'échanger. D'ailleurs, les patients le savent bien, parce qu'ils savent très bien quand ils vont pas bien, oups, c'est le soignant qui va en faire un maximum. De fait, très, très concrètement, mais je vous fais un aérosol, respirez lentement, profondément par la bouche, ça va aller mieux. C'est déjà bien. Et en fait, nous les soignants, on va se soucier à un moment donné du devenir, mais pas forcément dans l'optique de prévention pour que le patient ne revienne pas. Un dernier point ici, c'est que, de fait, même si le patient, globalement, physiquement, ne va pas bien, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de l'intégrer le plus possible aux différents actes et aux différentes actions qu'on va faire, autant que faire se peut, avec lui. Alors, évidemment, on va s'adapter. Moins il va bien, plus on va peut-être devoir attendre un petit peu. Là, je crois que c'est un petit peu tôt. Et puis, évidemment, le mieux il va, le plus on va probablement pouvoir faire pas mal de choses et échanger avec lui. Hein. Et là encore, on ne soigne pas des EFR, on ne soigne pas une gazométrie, ça a déjà été dit précédemment, mais à un moment, comment vous vous sentez? Et à partir de là, on va certainement pouvoir amener une discussion, soit sur la partie somatique, pure pour faire du soin somatique, et ou commencer à envisager l'avenir et à s'entretenir avec le patient. Hein. C'est donc une espèce de gymnastique entre, bon, je dois faire du soin un peu directif, vous n'allez pas bien, et puis, dès que c'est possible, on va commencer à vous faire participer, à échanger avec vous, et à voir un peu comment vous vous sentez. Alors, en pratique, un aspect vraiment essentiel, je l'ai déjà évoqué, c'est vraiment de refaire l'historique avec le patient. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi c'est arrivé? On peut déjà commencer à techniquement identifier des prodromes, des facteurs déclenchants, des gestions de crise pas toujours appropriées. La preuve, le patient est aux urgences. Hein. Et c'est d'autant plus important qu'il y a un décalage entre un vécu récent et puis ce qui s'est passé, le souvenir qu'on peut en avoir quelques heures ou quelques jours après. Des fois, on met un peu mouchoir dessus, ça s'oublie, il y a d'autres préoccupations qui apparaissent. Et le fait de raviver tous ces moments-là, les faire verbaliser par le patient, ça peut être une manière d'amorcer une discussion, un échange et un levier. Voilà une de mes questions favorites, c'est grave, parce que là aussi on peut, surtout quand on a affaire à des patients qui sont dans le déni ou qui minimisent les événements, quand même remettre parfois un peu de concret et d'un peu plus objectif dans ce qu'ils vivent. Et de fait, quand on fait un diagnostic éducatif avec ces patients-là, c'est un des éléments essentiels que je tiens beaucoup à intégrer. Alors là aussi, très concrètement, hein, je refais l'historique, je leur demande aussi où ils en sont dans leur gène respiratoire. C'est important du point de vue somatique parce que c'est un bon marqueur de l'obstruction bronchique qui peut subsister. Et en même temps, eux, la perception qu'ils en ont. Et ensuite, on peut partir sur ce type de discussion parce que lorsqu'on revient en amont sur ce que le patient a vécu, mais classiquement, on va pouvoir dire bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour les jours qui viennent et pour les mois qui viennent. Il y a un autre intérêt avec ces patients-là, c'est que, comme je vous l'ai dit, ils viennent d'être quand même gérés de manière assez directive par des soignants, de manière assez consentante. Mais le fait de commencer à ouvrir la porte, discuter avec eux, les écouter, ça change beaucoup la relation et d'une manière générale, ils en retirent beaucoup, beaucoup de satisfaction parce qu'ils ne sont plus un objet de soin. On leur rend une dimension humaine et on ne s'intéresse pas que à leur obstruction bronchique. L'un des inconvénients dans les services d'urgence, c'est qu'on est dans l'inconnu. Nous, les soignants, parce qu'on ne sait pas très bien dans quel délai le patient va s'améliorer ou malheureusement s'aggraver. Et puis, donc, on ne connaît pas la durée de séjour, combien de temps on va pouvoir lui consacrer, d'autant plus qu'il y a souvent plein d'autres soins et plein d'autres personnes qui vont tourner autour du patient. Et puis, si jamais il s'améliore ou s'aggrave, il va s'en aller. Donc, planifier quelque chose, pour nous, soignants, ce n'est pas facile, mais pour le patient aussi, ce n'est pas facile, parce qu'il a de l'incertitude. On vient d'en parler précédemment, une incertitude, c'est pas très très bon. Il vient d'avoir déjà beaucoup, beaucoup d'angoisse, et on a encore l'angoisse de bon, mais qu'est-ce qu'on va faire là dans les heures qui viennent, demain, après-demain. De fait, autant que faire se peut, on doit pouvoir clarifier la destinée du patient et l'en informer pour savoir ce qu'on va pouvoir organiser concrètement dans les heures, les jours qui viennent. Alors là aussi, récemment, on nous a parlé des liens avec la famille. Ce n'est pas anodin parce que bien souvent, ce sont des patients qui, cette fois-ci, ne viennent pas seuls dans un cabinet, mais bien souvent, il y a de la famille qui est présente. C'est très vrai aux âges extrêmes de la vie, mais également pour les adultes. Et ce n'est pas inintéressant parce que lorsqu'on discute avec le patient et puis lorsqu'on discute avec la famille, on peut avoir d'autres points de vue quant à la gestion de la maladie dans son ensemble par le patient. Donc, du renseignement, mais également de l'aide pour la projection dans l'avenir. Et là encore, classiquement, c'est une aide très très précieuse, surtout dans ce contexte où il y a eu de l'angoisse pour le patient, mais bien souvent aussi pour l'entourage. Alors, quel apprentissage? Surtout, ne pas segmenter. De même qu'il ne faut surtout pas catégoriser les patients, comme je l'ai dit précédemment, il ne faut pas se dire « oulala, je peux faire que ça, ou que ça, ou que ça hein ». L'une de mes erreurs une fois a été de me focaliser chez une patiente et j'ai obtenu l'aveu de la non-observance. Et heureusement, je l'ai revue un peu plus tard et j'avais mis en évidence tout simplement qu'elle ne prenait pas, qu'elle était en plus exposée à une multitude d'allergènes en ayant beaucoup d'animaux chez elle. Voilà, c'est pour vous dire que oui, il faut ouvrir des portes, des tiroirs, il y a certainement quelques points essentiels, mais surtout, ne pas s'y arrêter et vraiment prendre ces patients, du coup ces patients asthmatiques, dans leur contexte certes, mais essayer de ne rien omettre. Hein. En d'autres termes, oui, il y a des points importants, mais surtout, surtout, ne pas s'arrêter à ces points qui peuvent nous sembler importants, qui sont aux limites des compétences classiques, des compétences de sécurité. Donc, c'est clair, bon, souvent en plus on commence par la technique d'inhalation parce que c'est le grand classique, mais surtout on ne s'arrête pas là. Et s'il y a un point sur lequel vraiment il faut insister, c'est bien prendre le temps de faire un diagnostic éducatif, quitte à reporter des apprentissages par la suite. Hein, sinon, on passe à côté de quelque chose. La principale limite dans ces cas-là, c'est le temps. Donc, effectivement, on cible et on passe. Et éventuellement, il faudra pouvoir passer le flambeau. Ensuite, il n'y a rien de très spécifique à ces patients dans les capacités, si ce n'est que parfois ils sont encore fatigués, émotionnellement aussi, et des fois ils nous disent « bon, stop, là j'en ai un petit peu assez, on arrête la discussion ». Ce qui relève quasiment du vœu pieux, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment, chez ces patients qui sont quand même sévères, qui sont à un risque de récidive, d'aggravation, il faudrait vraiment que eux, plus encore que d'autres, aient un plan d'action. En pratique, ça ne se fait pas assez. Et moi, dans ma position de paramédical, parfois, il y a un médecin qui écrit quelque chose, en collaboration avec le patient, avec moi-même ou une infirmière, et puis des fois, ça ne se fait pas. C'est pas formalisé, c'est pas organisé, c'est vraiment dommage. Alors que, justement, on a affaire à un patient qui est potentiellement demandeur, on l'a sous la main, un certain temps quand même, on pourrait mettre en place pas mal de choses. Alors, quel message plus spécifiquement? On vient d'en parler. C'est le moment de remettre le doigt sur tout ce qui peut déclencher un asthme, et en particulier ici un asthme grave. Je me répète, désolé, mais vraiment, c'est l'occasion de poursuivre les soins et surtout pas laisser partir ce genre de patient dans la nature avec juste un rendez-vous ou une recommandation d'aller voir son médecin dans les jours qui viennent. C'est pas assez et c'est vraiment l'occasion de faire beaucoup plus et beaucoup mieux, de les enrouler, autant faire ce point dans une structure adaptée. Et puis là aussi, c'est le bon moment pour remettre en route ce fameux traitement de fond qui est trop souvent omis chez nombre de patients, en particulier ceux-là. Voilà, encore une fois, la même rengaine en milieu hospitalier, j'ai pas le temps, je suis pas là pour ça, etc., etc. Mais c'est clair que c'est vraiment mis en exergue actuellement compte tenu des pratiques dans les services d'urgence. Néanmoins, des avantages sur lesquels il faudrait pouvoir s'appuyer pour mettre en place des choses beaucoup plus fréquemment que ça ne se fait actuellement. En bref, on tient un patient, on l'a vraiment, entre guillemets, à disposition pour pouvoir échanger, mettre en place des choses, mais il ne faut pas traîner, alors qu'on pourrait leur permettre d'accrocher une autre gestion de leur pathologie à cette occasion-là. Le personnel soignant, c'est vrai, n'est pas du tout sensible en pratique courante à l'ETP, en dehors de quelques personnes, plus ou moins ciblés. D'une manière générale, ça ne se fait pas assez. Et si au moins les personnels dans les urgences étaient sensibilisés à l'ETP, ils pourraient repérer les besoins des patients et les orienter vers des structures adaptées. C'est vrai qu'en pratique courante, quand on connaît l'engorgement des services, il ne faut quand même pas rêver, mais un repérage des patients, passer le flambeau, pourquoi pas, à des équipes transversales, de même qu'il y en a pour la douleur ou l'hygiène, pourquoi pas pour l'ETP dans les services hospitaliers, permettrait de, là encore, de cibler, d'organiser quelque chose de pertinent pour les patients. Alors vous imaginez bien que dans ce type d'organisation, mesurer des résultats, c'est évidemment illusoire. J'aurais certainement pas cette prétention. Mais ce que je peux quand même repérer, c'est que à partir du moment où on prend le temps de changer la relation avec ses patients, de les écouter, d'échanger, de leur rendre leur dimension humaine, on a beaucoup de satisfaction. Et c'est normal, évidemment, ça tombe sous le sens. Et ça laisse vraiment la porte, ça ouvre la porte à des changements de comportement, en tout cas des patients qui disent très clairement, oui, effectivement, là, j'ai appris quelque chose, je crois que ça va me faire du bien, je perçois l'utilité de prendre mon traitement, d'éviter certains facteurs, etc., etc. Et à l'arrivée, oui, il y a un moment privilégié avec les patients aux urgences. J'en termine et je vous laisse la question réglementaire du jour.
Voilà, merci beaucoup Philippe Burtin pour cette présentation.